Ah, mes frères bien-aimés, notre Seigneur est toujours aussi étonnant dans ses réponses. Regardez, un homme demande à notre Seigneur de réprimer son frère qui veut garder l'héritage pour lui tout seul. On s'attend alors à ce que le Christ prenne parti, car la justice est en jeu. S'il ne fait rien, un homme risque d'être lésé. Eh bien, malgré cela, le Christ ne rend pas de verdict et répond même qu'il n'est pas établi pour cela. Lui qui est pourtant le juge par excellence, qui arbitra le jugement final. Oh, bien évidemment, il est qualifié pour cela. Mais il veut nous faire comprendre par cette réponse que ce n'est pas à lui de trancher nos conflits, mais c'est nous-mêmes qui devons le faire. Autrement dit, si nous cherchons la solution à l'extérieur, en faisant appel à Dieu ou à un juge qui imposerait aux deux parties une décision que ces derniers seraient obligés d'accepter, cela ne servirait pas à grand-chose. Car nous aurions alors une accalmie, mais une accalmie de façade seulement. Et les cœurs baigneraient encore dans la colère, voire même dans la haine. Non, pour que nos conflits soient définitivement résolus, il faut que la solution vienne de l'intérieur, du cœur de chacun. Revenons à l'homme de l'évangile du jour. Comme le laisse sous-entendre la parabole du Christ qui suit, cet homme est très riche et n'a besoin de rien. Et pourtant, il en veut à son frère pour une question d'héritage. Eh bien, imaginons que l'affaire soit réglée au tribunal. Ne nous leurrons pas. Dans 2 ans, il se rendra compte que l'appartement qu'il a récupéré des parents avait en fait moins de valeur que celui récupéré par son frère, et ce sera reparti pour un tour. Pour arrêter ce cercle vicieux, il n'y a en fait qu'une seule solution. Il faut que cet homme détruise l'avidité qui habite dans son cœur. Alors, comment peut-il se libérer de ce vice? Eh bien, pour le savoir, demandons-nous d'abord comment il a attrapé ce vice. La réponse, elle est toute simple. La surabondance de biens qu'il possède a fécondé en lui la boulimie pécuniaire et il en veut donc toujours plus. En d'autres termes, l'environnement dans lequel il a vécu a induit en lui un comportement très difficile à endiguer. C'est là le nœud du problème. Et c'est donc sur cet environnement qu'il doit travailler. Et cela est valable pour nous aussi. Notre milieu de vie nous influe fortement. Que voulez-vous? Si vous avez des saucissons accrochés au pare-brise de votre tracteur ou dans votre buanderie, vous allez en manger toute la journée. Voilà pourquoi notre maître a affirmé qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Car il sait bien que les réalités qui forment notre milieu de vie ont une grande influence sur nous. Et ce matin, je voudrais insister sur un autre danger tout aussi néfaste que les richesses, les misères. Et quand je parle de misère, je veux parler de celui à qui il manque le strict nécessaire pour accomplir sa nature humaine, celui qui n'a pas assez de nourriture, celui qui n'a pas de logement salubre, celui qui n'est pas assez aimé par sa famille ou assez estimé par ses amis, celui qui n'a pas un travail exaltant. Toutes ces choses, il faut bien le reconnaître, favorisent, tout comme la richesse, certains états d'âme qui sont contraires à ceux du royaume des cieux. Et on peut alors affirmer qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un miséreux d'entrer dans le royaume des cieux. Que voulez-vous quand vous êtes SDF sur la rue commerçante de Dijon et que vous voyez toutes ces personnes manger des glaces et ne pas avoir même un regard pour vous? Le risque est grand que vous ayez de la haine à leur égard. Ou quand vous perdez vos parents jeunes et que vous êtes alors orphelin, le risque est grand que vous soyez noir de colère envers Dieu. Et vous avez alors dans ces deux situations un cœur qui n'est pas prêt à entrer au paradis. Aussi, si nous voulons permettre à ces gens-là de pénétrer dans le cœur du Père Céleste, et j'espère que vous le voulez tous, eh bien, il nous faut dans un premier temps nous attaquer à leur état de détresse avant de leur annoncer la bonne nouvelle, car sinon, cette dernière ne portera pas de bons fruits. L'on s'étonne souvent que l'évangélisation piétine, mais c'est parce que nous faisons tout à l'envers. Nous annonçons le Christ avant de nous intéresser à l'humanité dans sa dimension la plus concrète. Nous disons aux gens « Dieu vous aime », mais sans leur faire ressentir de manière palpable cet amour. Regardez donc les saints qui émaillent nos calendriers. Qu'a fait Don Bosco, le plus grand éducateur de tous les temps? Il a d'abord sorti les jeunes de l'indigence, il a soigné leur humanité, et ensuite il les a amenés au Christ. Il leur disait toujours « Je veux vous offrir trois choses au nom du Seigneur, du pain, du travail et le paradis. » Mais voyez, le paradis, c'est en troisième position. Et qu'a fait Mère Teresa, prix Nobel de la paix? Elle a accompagné les mourants. Elle a soigné leur humanité sans rien attendre en retour. Et par là, elle a annoncé le Christ. En un mot, ces saints se sont toujours battus dans un premier temps pour détruire les environnements de vie défavorables à la floraison et au développement des valeurs évangéliques. Et nous devons en faire autant. Pour reprendre une célèbre fable de La Fontaine, rien ne sert de crier la vérité, il faut la dire à point nommé, c'est-à-dire quand le terreau humain est suffisamment apprêté pour pouvoir accueillir la semence de la parole de Dieu. Alors, certes, pour en revenir à notre problématique du jour, il nous faut aussi accompagner les riches dans ce changement de cadre de vie. Mais avant tout les pauvres, à la fois parce qu'il y en a bien plus, mais surtout parce que l'Évangile a une option préférentielle pour eux. En conclusion, mes frères, et pour que nous soyons poussés à agir, écoutons cet appel que le prêtre français Joseph Wresinski a prononcé au siècle dernier. Le souhait qui me hante, débute-t-il, c'est que l'Église s'identifie à la misère odieuse et repoussante de notre temps, qu'elle s'identifie une nouvelle fois à elle-même, se faisant aimer des plus pauvres. Ces derniers aimeront l'Église à partir du moment où ils auront reconnu en elle le visage du Christ déconfit, tuméfié, sali par les crachats. C'est ce Christ-là qui est ressuscité. À tel point que, dans la réalité de l'existence des hommes les plus rejetés, Dieu ne s'exprime pas seulement, il se révèle. Il se découvre non pas objet ni idée, mais être à aimer. Je suis sûr que l'Église, et c'est là, mes frères, où je voulais en venir, saura réinventer l'évangélisation en la fondant sur des personnes engagées envers le monde de la misère. Elle saura en trouver des formes nouvelles qui épouseront non seulement la pauvreté, mais la misère. Mes frères, si nous voulons que le Christ gagne la partie des âmes, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Identifions un besoin humain et comblons-le, et sans parler sans cesse de Dieu notre Père, mais en le laissant clairement transparaître à travers notre manière d'agir. Vive le don de soi et vive l'évangélisation. Amen.